France Culture.
France Culture, entendez-vous l'écho. Aliette Ovine.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Entendez-vous l'écho version 2026 et je vous souhaite évidemment au nom de toute l'équipe une excellente année, une année qui démarre sur de bonnes bases, celle évidemment du programme d'Entendez-vous l'écho, soit une heure et trois rendez-vous que je vous donne sans plus attendre. Nous commencerons évidemment par la question d'actualité. Depuis le 1er janvier de cette année, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières est entré en vigueur. C'est une première mondiale et c'est une initiative de l'Union européenne bien sûr, mais l'idée de rendre plus onéreuses les importations d'acier, d'aluminium ou encore de ciment au nom de la compétitivité est hautement controversée, tendue diplomatiquement aussi. Nous le verrons avec nos deux invités, Nicolas Bergmans et Aliénor Cameron. Et puis dans une seconde partie, vous en avez l'habitude maintenant, place à l'histoire de la pensée, suite et fin de notre série consacrée aux pensées féministes du travail, avec un quatrième épisode où l'on se penche sur l'approche de la philosophe américaine Nancy Fraser avec la chercheuse Marie Garraud. Et enfin, à 14h55, nous retrouverons l'économiste Alexandra Roulet, qui est toujours avec nous en 2026, pour son fil de l'écho où il sera question de la réforme de l'assurance chômage, vaste sujet s'il en est. Vous avez donc le programme de cette émission, préparé par Tina Young, réalisé et mis en onde par Sorge Leroy. Mais avant tout cela, une petite parenthèse traditionnelle pour revenir sur l'actualité de la semaine passée. Le passage à une nouvelle année est souvent, voire toujours, le moment propice pour tirer des bilans. Peut-être l'avez-vous fait vous-même de votre côté. En tout cas, différents secteurs publient, eux, progressivement leurs chiffres. C'est le cas, par exemple, pour le cinéma français. 155 millions de places ont été vendues en 2025. C'est bien loin des 181 millions de l'année précédente. Le secteur automobile français aussi fait état de ce bilan sous forme de chiffres. Là encore, les nouvelles ne sont pas franchement réjouissantes. Sur un an, les ventes reculent d'un peu plus de 5% avec 1 632 154 immatriculations en 2025. Peut-être en avez-vous fait partie, mais en tout cas la plateforme automobile qui défend les intérêts de la filière automobile française parle, elle, d'une crise de volume. Alors le fait n'est pas tout à fait nouveau. Il y a 50 ans aussi, à la toute fin de l'année 75, et alors qu'on a anticipé l'année 1976, le secteur était au premier rang des préoccupations économiques.
Il faut manier les chiffres avec précaution et je ne vais pas continuer sur la suite de chiffres qui viennent d'être donnés, mais je crois qu'il est utile d'en donner quand même quelques-uns. Il est certain qu'on assiste à une hausse de la consommation d'un certain nombre d'objets, par exemple l'automobile, qui a augmenté de 24% par rapport à l'an dernier. Mais si on regarde par rapport à l'année qui précédait, il y a encore une baisse de 10%, 13% très exactement. C'est-à-dire qu'on n'a même pas atteint le niveau 73.
Un secteur donc qui était déjà en difficulté, mais vous voyez bien que le contexte n'est pas tout à fait le même. À la fin de l'année 1975, on se demandait plutôt comment profiter du regain de la consommation qui marquait alors l'économie française et qui effectivement allait marquer l'année 1976. Et c'était Jacques Attali qui commentait tout cela. Il était déjà là, donc voilà, ça fait toujours plaisir de se souvenir de ce qu'il se passait il y a 50 ans, qui finalement est assez proche de nous. Alors forcément, ces bilans chiffrés font bouger les classements et autres palmarès. L'Italie est ainsi devenue le quatrième exportateur mondial, surpassant ainsi la France, la Corée du Sud et le Japon, surtout, qui occupaient cette place jusqu'ici. Et en 10 ans, les exportations italiennes ont augmenté de 48%, là où celles de l'Allemagne n'ont cru que de 27% et celles de la France de 28%. C'est toute l'efficacité des multinationales de poche, soit des entreprises de 50 à 2000 salariés, qui fait là ses preuves, selon les Échos, qui consacraient jeudi un papier au sujet, qui nous donne nous-mêmes, à Entendez-vous l'écho, des envies de sujet. Certains remontent, d'autres baissent. Donc, dans le secteur automobile, on a appris vendredi dernier, le 2 janvier, que le chinois BYD était désormais le premier constructeur de véhicules électriques dans le monde, prenant ainsi sa place à l'américain Tesla. Et en un an, le groupe chinois a écoulé 2,26 millions de véhicules dans le monde contre 1,76 million un an plus tôt. Alors certains montent, d'autres descendent la vaste échelle des classements économiques entre stratégie, art du compromis, héritage aussi des décennies passées, on parlait de l'Italie. 2026 promet donc d'être une année où tirer son épingle du jeu est aussi une affaire de doigts. déboîté, mais quand même un peu aussi de chance vu l'instabilité généralisée qui caractérise aussi ce moment, cette décennie presque. Alors concilier ambition, défense de ses intérêts et règles en vigueur, c'est tout un art que l'Union européenne a mis en application depuis le 1er janvier dernier, date d'entrée en vigueur du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Mais quand commerce, diplomatie et défense de l'environnement sont dans le même bateau, forcément il y a des remous et c'est notre sujet d'actualité du jour.
And my third point is that with our carbon pricing task force,
Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, le 6 novembre 2025.
Grâce à notre groupe de travail sur la tarification du carbone, nous aidons nos partenaires à mettre en place leur propre système d'échange de quotas d'émissions. En effet, la tarification du carbone s'est avérée être l'outil le plus efficace de l'arsenal climatique.
À partir de 2026,
Sébastien Martin, ministre délégué chargé de l'industrie, le 13 novembre 2025.
Se mettra en place le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, la fameuse taxe carbone aux frontières, qui est aussi un des moyens pour protéger un certain nombre de productions françaises, et je pense notamment à l'acier.
Si par exemple une entreprise...
Jean-Marc Germain, PDG de Constellium, le mardi 9 décembre 2025.
Hors du marché européen, va dire « Écoutez, moi, évidemment, il y a plein de centrales à charbon dans mon pays, mais l'aluminium que je fabrique est fait avec de l'énergie hydroélectrique, ou alors c'est fait avec beaucoup d'aluminium recyclé. Ça va rentrer en Europe sans payer la taxe carbone. Ça va être moins cher que celui que je vais produire, moi, domestiquement. » Et donc là, on marche effectivement sur la tête, on se retrouve dans une situation où on favorise, par ce mécanisme, les importateurs en Europe, et on décourage les exportateurs européens sur les marchés internationaux. Donc c'est clairement pas un mécanisme qui permet de renforcer la compétitivité européenne, et à côté de ça, c'est pas un mécanisme qui permet de réduire les émissions au niveau global, puisque tout ce qui se passe, c'est de l'attribution de quotas.
Alors certains y voient une façon d'affirmer les ambitions environnementales de l'Union européenne tout en favorisant ses entreprises industrielles. D'autres y voient au mieux un nouvel arsenal normatif sans grands effets. Au pire, une menace pour des relations commerciales déjà largement complexes dans ce contexte agité. Alors comment comprendre la mise en place depuis le 1er janvier 2026 du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, protectionnisme vert ou ambition environnementale mondiale, au nom de quoi instaurer ce nouveau mécanisme et surtout qui va en payer le prix et pour quelle efficacité? Pour répondre à toutes ces questions, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui deux invités. Nicolas Bergmans, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur du programme Nouvelle Politique Industrielle à l'IDRI, l'Institut du Développement Durable et de Relations Internationales. Également avec nous à distance, Aliénor Cameron, bonjour et bienvenue à vous.
Bonjour.
Vous êtes docteur en économie, chercheuse en économie du climat à l'Institut universitaire européen de Florence. Et je remercie largement les studios d'ici à Nice qui assurent ce duplex. Alors Nicolas Bergmans, quelques mots pour commencer sur ce qu'est au juste ce fameux mécanisme d'ajustement aux frontières qui donne lieu à un nouvel acronyme dans tout l'arsenal européen qui existait déjà. On rappelle quand même que ça fait 20 ans qu'une autre façon de réguler les émissions de gaz à effet de serre existe. C'est le système communautaire d'échange de quotas d'émissions établi en 2005, un nouvel acronyme, puisque c'est le SCEQE. Alors, que fait le MACF? Que ne fait pas le SCEQE?
Très bien, merci de rappeler ça. Donc, il faut bien avoir en tête que le MACF, en fait, il vient compléter un système de tarification carbone qui existe en Europe depuis 2005. Donc, il faut savoir que les industriels européens sont soumis à ce système d'échange de quotas d'émissions qui fait émerger un prix du CO2 que les industriels paient. Donc les producteurs d'électricité, les producteurs d'aluminium, d'acier, etc., paient ce prix-là quand ils produisent en Europe. Évidemment, comme toute politique climatique qui est mise en place sur certaines géographies, il y a un risque associé à ça. Et le risque, c'est ce qu'on appelle le risque de fuite de carbone. Donc, pour montrer une image très simple à comprendre, c'est l'idée qu'au lieu d'acheter à des producteurs européens, vous allez acheter à des producteurs internationaux qui ont la capacité de vendre sur votre territoire, mais qui ne font pas face à ce prix de CO2.
Donc, dont les produits seraient moins chers.
Dont les produits seraient moins chers, puisqu'ils n'ont pas à payer ce prix du CO2. Et ce risque a toujours été présent, mais il était jusqu'à présent mitigé, on va dire, par l'allocation gratuite de quotas aux industriels européens. Or maintenant, car on a renforcé l'ambition climatique globale au niveau européen, et donc l'ambition climatique pour les industriels européens, eh bien, on a choisi de passer à un autre système, qui est celui de progressivement diminuer les allocations gratuites et de mettre en place un système de tarification CO2 pour les importations qui proviennent d'ailleurs. d'ailleurs, pour justement égaliser la concurrence entre producteurs européens et producteurs internationaux.
Donc si je vous comprends bien, Nicolas Bergman, c'est une autre façon d'adoucir ce qu'avait mis le système de 2005 en place. On l'avait adouci dans un premier temps grâce à ces quotas gratuits. Maintenant qu'ils viennent à expiration, entre guillemets, on trouve une autre façon, on va dire, de rendre la chose moins compliquée pour les entreprises industrielles. Juste une petite précision, Nicolas Bergman, on est d'accord qu'il ne s'agit pas là d'une taxe à proprement parler.
Alors, sur le régime, si c'est une taxe, mais elle est calculée sur le même prix de CO2 que le système d'échange de quotas d'émissions. En fait, si vous voulez, ça agit comme une taxe, mais juridiquement, ce n'est pas une taxe.
Voilà. Ce qui est une nuance importante à garder en tête. Très, très concrètement, Aliénor Cameron, comment va fonctionner ce nouveau mécanisme? Qu'est-ce que ça va changer? Typiquement, si on est une entreprise européenne qui importe de l'acier, du ciment ou de l'aluminium pour construire ces produits manufacturés, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ce sont ces entreprises qui importent, qui doivent calculer les émissions associées aux matières premières qu'elles utilisent?
Alors, il y a un système qui a été mis en place pour justement simplifier la donne pour les entreprises importatrices, pour qu'elles n'aient pas en fait à faire ce calcul directement, ce qui peut être très compliqué, notamment pour les petites et moyennes entreprises. Donc, une partie de ce système pour les aider, ça a été d'avoir une phase de transition qui a commencé en 2023, où elles ont déjà dû commencer à faire du reporting justement sur leurs émissions et leurs importations. Et une deuxième partie, c'est que en fait l'Union européenne a prévu d'utiliser des valeurs moyennes qui sont en fait celles des producteurs européens ainsi que des producteurs étrangers pour lesquels on a des valeurs, des véritables valeurs. Et en fait, ça permet d'alléger justement cette difficulté un peu administrative à calculer ces valeurs dans un premier temps, jusqu'à ce que les entreprises puissent justement mettre en place cette comptabilité et avoir les vraies valeurs de leurs émissions dans leurs produits.
Oui, puis l'Union européenne aussi, dans cette perspective d'alléger le poids administratif et même tout simplement presque mathématique, de calculer finalement cette quantité de carbone, qui par ailleurs est un calcul très compliqué à faire, quel que soit le nombre de personnes à disposition dans une entreprise. Même d'un point de vue scientifique, c'est encore très compliqué de savoir quelle quantité de carbone est impliquée dans la production d'une matière première. L'Union européenne a mis en place quand même tout un paquet de mesures dites de simplification pour accompagner, on va dire, ce mouvement-là. Et donc, l'idée, c'est de faciliter les déclarations pour les plus petits importateurs qui ne dépassent pas 50 tonnes de marchandises par an et qui sont donc dispensés de ce mécanisme. Nicolas Bergman se pose toutefois la question, on a bien compris, alors il ne s'agit pas juridiquement d'une taxe, mais c'est tout de même une forme de surcoût, ça va coûter plus cher si on a recours à ces matières premières-là qui, on va dire, sont particulièrement polluantes. Qui va payer ce prix-là? Est-ce que ce sont les entreprises exportatrices, donc à l'extérieur de l'Union européenne? Est-ce que ce sont les entreprises importatrices? Est-ce que ce sont donc, in fine, les consommateurs européens?
Alors, dans la logique du système, finalement, ça vise à augmenter la capacité des entreprises à passer ce coût aux consommateurs. Donc, on va retrouver certainement, si le système est suffisamment efficace, une partie de cette hausse de coût dans un certain nombre d'industries aval. Donc, on peut penser par exemple au surcoût d'une tonne d'acier verte aujourd'hui estimée sur une voiture, c'est autour de 100-150 euros par véhicule. Donc déjà, il faut montrer à peu près ce que ça représente. Oui, il y a un surcoût. Mais seulement sur certains biens. Et ce qui est notable aussi, c'est par rapport à d'autres systèmes de taxation carbone, c'est que ce système de taxation carbone sur les biens industriels, sur les produits industriels, il a tendance à être moins régressif, c'est-à-dire à toucher plus les personnes qui ont des revenus plus élevés. Puisqu'en fait, quand on a des revenus plus élevés, on consomme plus de biens.
On achète une voiture.
Exactement. Enfin, on achète une voiture, on a des logements plus grands. Enfin, et alors qu'une taxation CO2 qui s'applique directement sur l'utilisation de l'énergie a tendance à peser plus fortement en proportion du revenu sur les revenus les plus modestes, parce qu'on utilise une plus grande part de nos revenus sur les de nos revenus pour la mobilité, par exemple. Et donc ça, c'est aussi un fait qu'il faut mettre dans le débat. Oui, il y a un surcoût. Oui, certainement, à terme, en tout cas, la visée, c'est que le consommateur européen le paie. Et oui, il y a d'autres coûts qui vont exister, notamment pour certaines industries dans des pays tiers qui exportaient largement vers le marché européen. européen. Mais ça, c'est des choses qu'il faut pouvoir gérer par ailleurs, par de la diplomatie, par aussi de l'accompagnement à la transition que les Européens peuvent aussi enclencher.
Cela dit, Nicolas Bergman, si ça faisait partie aussi des critiques adressées à ce mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, c'est que, vous citez l'exemple de la voiture, mais on pourrait se dire que à peu près tous les produits contiennent de l'acier, de l'aluminium. Enfin, il y a un très très grand nombre de produits. Il y avait notamment l'exemple des machines à laver, des outils de jardinage. Est-ce que tous les produits sont concernés? Il n'y a pas d'exemption spécifique?
Alors maintenant, aujourd'hui, ils ne sont pas nécessairement concernés aujourd'hui. En revanche, la Commission européenne travaille à proposer, à la fin de l'année dernière, d'étendre le mécanisme justement pour éviter qu'il y ait des effets détournement, c'est-à-dire de protéger les producteurs européens de façon plus forte par rapport aux importations qui proviendraient d'ailleurs. Alors vous prenez le cas de la machine à laver, c'est le cas, des parties des véhicules aussi, mais l'objectif est de protéger les industriels européens et de les protéger tout en gardant cet objectif de décarbonation. Oui, il y a un surcoût, et puis ça il faut le dire, il y a un surcoût, mais il y a un surcoût qui est quand même, je le disais tout à l'heure sur l'exemple de la voiture, qui est modéré, et qui, en plus de cela, il ne faut pas oublier que ce mécanisme, il vise à, enfin, il lève des fonds. C'est-à-dire que le MACF, donc la taxe aux frontières, mais aussi le système d'échange de quotas d'émissions, puisqu'on retire les allocations gratuites, vient de renforcer les budgets de l'Union européenne, donc des institutions européennes, mais aussi des États membres. Et tout va dépendre aussi de ce qu'on fait de cet argent-là. Si cet argent, on l'utilise, par exemple, pour encourager la transition, aider à investir, aider dans ces infrastructures-là, c'est autant d'argent dont on aura moins besoin via d'autres sources. Et donc, ces effets sont quand même à relativiser par rapport à cet ensemble d'effets économiques.
On va revenir sur cette question de ce qu'on peut ou ce qu'on doit faire avec ces fonds, justement, qui sont générés, parce que leur fléchage est une vraie question, notamment dans l'identification de savoir qui paye le coût final aussi de cette ambition environnementale. Avant cela, Aliénor Cameron, je voudrais qu'on revienne vraiment sur la raison pour laquelle on a mis en place ce mécanisme, maintenant qu'on a compris à peu près comment il fonctionne. On l'a dit, il y avait déjà ce système communautaire d'échange des quotas d'émissions qui, en 2005, qui fixe un plafond sur la quantité totale de CO2 qui peut être émise par les entreprises. Quel bilan on peut en faire 20 ans plus tard? Est-ce que si on a mis en place le mécanisme, le MACF, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, c'est parce qu'on a estimé que le système qui existait jusqu'ici n'était pas suffisant, avait des trous dans la raquette, ou parce qu'il fonctionnait tellement bien qu'il faut encore plus l'étendre? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel bilan on peut faire 20 ans plus tard?
Alors, je pense que c'est important de rappeler que, en fait, le mécanisme donc, qui avait été utilisé avant le MACF, donc on a déjà mentionné les quotas gratuits, ils ont toujours eu vocation à disparaître. À partir de la mise en place, même en 2005, on parlait déjà du fait que ces quotas gratuits allaient être réduits progressivement pour, en fait, augmenter l'ambition du marché du carbone européen et augmenter petit à petit le prix. Donc, ce MACF, en fait, c'est totalement dans la lignée justement des 20 ans de politique climatique de l'Union européenne qui a toujours eu comme ligne, en fait, d'essayer d'augmenter graduellement l'ambition. Et du coup, tout en accompagnant les entreprises par d'autres moyens aussi, d'avoir un signal prix qui augmentait petit à petit sur les entreprises industrielles notamment.
Et du reste, c'est ce qui s'est produit.
Exactement. Donc en fait, le MACF, il vient. J'ai un peu envie de dire que les quotas gratuits, ça permettait d'avoir un marché international qui venait en Europe et il n'y avait pas de surcoût. Et du coup, on avait une politique climatique qui égalisait les choses un peu par le bas. Et maintenant, avec le MACF, donc les entreprises européennes vont payer ce prix du carbone, ce qui n'était pas le cas avant, mais ça va être aussi le cas des entreprises étrangères. Donc on est dans cette logique toujours d'égaliser les coûts, mais un peu plus par le haut. Donc pour moi, c'est une logique d'accroissement en fait de l'ambition environnementale, mais qui est totalement dans la lignée de ce qui a été fait par le passé.
Une logique de l'accroissement de l'ambition, mais Nicolas Bergman, on comprend aussi à travers ce que nous dit Aliénor Cameron, qui a cette idée de justice finalement aussi pour les industriels européens, que finalement eux payaient déjà un prix supérieur en raison du caractère polluant, on va dire, de leur production. Maintenant, il s'agit de faire payer aussi les producteurs extra-européens. Est-ce qu'on sait, Nicolas Bergman, alors là je rentre un peu plus dans des choses d'ordre diplomatique, mais est-ce qu'on sait qui a poussé pour la mise en place de ce MACF? Est-ce que c'est une réponse de l'Union européenne à un éventuel lobby industriel qui était vraiment pour finalement?
Alors, si on regarde dans le passé, il y avait déjà certaines industries, hein. Il y a des grands industriels qui s'étaient positionnés pour le MACF, et certains même qui sont un peu plus mitigés à l'heure actuelle, hein. Donc ça, c'est quand même assez notable. Mais il y a quand même beaucoup d'acteurs, en tout cas les acteurs qui ont fait le plus aujourd'hui le plus le pari de la transition, c'est-à-dire qui produisent ou qui sont en train de développer des projets d'acier bas carbone en Europe, sont vraiment pour le maintien de ce MACF et la poursuite de cette trajectoire de décarbonation, parce que tout simplement ça leur crée un espace économique. Ensuite, en fonction des, si on regarde la politique au niveau des États membres, il faut quand même se rappeler que la France a été la championne du MACF dans le cadre de la discussion sur le pacte vert en 2021. C'est vraiment la, une, for, enfin, une mesure phare qui a été portée par la France dès 2009 et qui a été, s'est retrouvée dans le grand paquet sur les politiques environnementales de la précédente commission, notamment en raison d'impulsion française.
Nicolas Baouens, en un mot, très rapidement, est-ce qu'on peut parler d'une forme de protectionnisme vert lorsque l'on parle du MACF ?
Pas tout à fait, parce que en fait, le MACF, comme je le disais, vient compléter un système de tarification carbone. Et donc ça, il faut bien le garder en tête. En fait, et ça c'était dit dans le reportage, ça vient favoriser les produits verts. Et les produits verts, qu'ils soient produits en Europe, aussi peut-être s'ils sont produits ailleurs. Parce qu'il y a des, dans d'autres pays, certes, ils n'ont pas forcément une tarification carbone, mais le fait qu'il y ait un prix carbone et un MACF en Europe, ça leur ouvre le marché s'ils investissent dans les technologies de la production verte.
Donc c'est censé être incitatif, et pourtant le mécanisme ne fait pas pour autant consensus. Oui. Tseliso Makbela, directeur général adjoint de la réglementation des minéraux et du pétrole d'Afrique du Sud, exprimait un certain nombre de critiques lors de la conférence Charbon et transition énergétique, c'était en 2024.
I think one of the things that has been introduced in Europe, this carbon border adjustment mechanism.
Ce mécanisme d'ajustement carbone aux frontières qui a été introduit en Europe doit être pris au sérieux par les sociétés minières de notre pays. Ensuite, la question de savoir si ce mécanisme est juste et équitable est une autre affaire. Nous ne pensons pas qu'il soit juste et équitable, car la contribution de notre pays et du reste du continent africain au réchauffement climatique et aux émissions de carbone est, pour être honnête, négligeable. Aujourd'hui, nous sommes censés permettre cette révolution énergétique verte en mobilisant nos matières minérales. Or, vous le savez, nous payons des pénalités pour obtenir les matières minérales qui permettront aux énergies renouvelables de prospérer à l'avenir. Il y a donc un problème à ce niveau-là.
Aliénor Cameron, les pays en développement sont-ils les grands perdants du mécanisme d'ajustement aux frontières ?
Alors, si on regarde juste en termes vraiment de l'impact purement économique, disons total, c'est pas les pays en développement qui vont être les plus touchés. Ce sera plutôt des pays qui exportent beaucoup vers l'Europe en termes de quantité, donc les États-Unis, la Chine, etc. Par contre, si on regarde en fait par rapport à leur propre PIB, leur propre économie, effectivement, relativement à ces tailles, il y a une étude de l'Agence française de développement qui montre que ces pays vont potentiellement être touchés de manière disproportionnée par le MACF. Mmh. Alors, l'Union européenne a essayé de prendre ça en compte. La première version de la réglementation du MACF prévoyait que les fonds qui étaient récoltés par le MACF seraient en fait en partie redirigés vers les pays en développement, justement pour compenser ces coûts. Alors cette version n'a pas vu le jour et ce n'est pas ce qui a été mis en place finalement, mais il y a quand même cette volonté qui a un peu été gardée, et l'Union européenne met en avant en fait le fait qu'elle aimerait, par différents programmes qui existent déjà à ce niveau-là, mettre en place en fait des systèmes pour aider justement les pays africains à établir leur transition écologique pour pouvoir en fait ne pas payer ce prix du carbone à la frontière de l'Europe.
Et là on reboucle avec l'idée d'une ambition environnementale à l'échelle mondiale aussi de la part de l'Union européenne, et on reboucle aussi avec la question du fléchage de ces fameux fonds. Nicolas Baermans, on comprend quand même qu'il y a une forme de tension diplomatique aussi qui se crée autour de ce MACF, de ce mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. On parlait de protectionnisme vert il y a quelques minutes. On le sait, lors de la COP30, ça avait été un sujet qui avait été assez brûlant aussi, que l'Inde et la Chine, je crois, voulaient absolument mettre sur la table. Finalement, est-ce que c'est ça le principal problème du MACF ? C'est pas tellement de savoir si ça va sauver l'industrie française, parce qu'en fait, il ne faut pas lui attribuer plus qu'il ne peut faire à ce mécanisme, mais c'est vraiment cette idée d'une tension diplomatique et commerciale.
Oui, il y a une tension autour de ça. D'abord parce que c'est un objet visible, puisqu'il est à la frontière. Et ensuite parce que dans les discussions climatiques, il y a toujours ce principe de responsabilité commune mais différenciée. C'est-à-dire que les pays qui historiquement ont le plus émis, dont fait partie le bloc de l'Union européenne, doivent être en avance sur la transition par rapport aux autres. Et donc c'est vraiment une question de transition, d'ajustement de ces transitions-là avec les pays en développement, avec des moyens que l'Europe pourrait mobiliser, tout à fait, parce que un grand enjeu, c'est intéressant que vous ayez un intervenant d'Afrique du Sud, mais c'est parce qu'en Afrique du Sud, en effet, la transition va prendre du temps et que le facteur pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de charbon en fait dans le mix énergétique, hein, et que le facteur bloquant là-bas, c'est la question des financements, c'est la question de l'accès au financement. Or, on sait ici aussi que la question de la transition est beaucoup un des facteurs importants, c'est la capacité à mobiliser des investissements pour pouvoir reconstruire des usines, des infrastructures bas carbone, etc. Et donc là, il y a un vrai rôle à jouer, c'est-à-dire on peut créer des partenariats économiques, dont le MACF est potentiellement même un déclencheur, mais avec d'autres types de coopération, à la fois réglementaire, mais aussi financière, pour permettre cette décarbonation au niveau global. Ce qui est sûr, c'est que le MACF, il a été pensé aussi avec cette optique d'inciter les autres pays à aller plus vite dans la décarbonation. Et il y en a où c'est plus difficile que d'autres.
Et est-ce que ça a fonctionné pour le système précédent, celui de 2005, il y a 20 ans donc, celui qu'on connaît bien? Est-ce que d'autres pays en dehors de l'Union européenne ont suivi, on va dire, l'exemple environnemental européen? Est-ce que le système d'incitation a fonctionné?
Alors, celui de 2005, enfin modérément. En revanche, depuis que le MACF a été annoncé puis mis en place, on a vu que, et ça va avec une accélération aussi de la décarbonation dans d'autres contextes. Donc, tout n'est pas dû au MACF.
Mais on, voilà, se construisent progressivement.
Exactement. Mais on voit d'autres États prendre des initiatives, notamment justifiées par l'existence du MACF. Dans ce sens-là, on peut penser au Japon qui est en train de mettre en place un marché carbone à plus long terme. On peut penser même à la Chine qui est en train d'étendre son système de quotas d'émissions à des secteurs industriels. C'était principalement sur la production électrique jusqu'à présent. Et d'autres pays comme le Brésil et la Turquie qui réfléchissent. Donc, il y a une vraie dynamique et peut-être une carte à jouer aussi pour les Européens, à se placer comme des précurseurs, à la fois sur les méthodes, mais sur la manière, en tout cas, de construire, en tout cas, cette coopération autour de la tarification carbone.
Une vraie dynamique, donc, même si les risques de contournement sont majeurs, nous n'avons pas eu le temps d'en parler, mais c'est un réel enjeu de savoir, voilà, d'où provient véritablement la matière première ainsi exportée. Mais merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Aliénor Cameron, je rappelle que vous êtes chercheuse en économie du climat à l'Institut universitaire européen de Florence. Et Nicolas Bergmans, vous êtes le directeur du programme Nouvelle politique industrielle, pluriel, à l'IDRI. Et tout de suite, on quitte l'actu pour prendre le chemin de l'histoire de la pensée, suite de notre série consacrée à cette question: comment penser le travail en féministe.
France Culture, entendez-vous l'écho? Aliette Ovine.
Quelle sorte d'animal est donc le capitalisme? Voilà la question que se pose la philosophe américaine Nancy Fraser au début des années 2020, lorsque paraît son ouvrage « Le capitalisme est un cannibalisme ». Née en 1947, elle a alors un long parcours derrière elle, ce qui lui permet d'apporter une réponse nouvelle à cette question qui, elle, ne l'est, disons-le franchement, pas tellement. Pour elle, le capitalisme a ceci de particulier qu'il ne s'agit pas seulement d'un système économique, mais aussi d'un système social, dans le sens où il s'immisce partout et dévore tout. Si vous avez l'impression de toujours manquer de temps pour vous, pour vos proches, de ne pas parfaitement maîtriser le fameux équilibre travail-perso, c'est normal, nous dit Nancy Fraser. Pour elle, le capitalisme sape les énergies nécessaires pour s'occuper justement de la famille et du foyer, pour soutenir la communauté, cultiver les amitiés, construire des réseaux politiques et forger des solidarités. Tout cela, c'est ce que Nancy Fraser appelle le travail du care, ce fameux mot qu'on a beaucoup de mal à traduire et qui n'est donc souvent tout simplement pas. Et donc on suit cette voie, et bien sûr Nancy Fraser, en féministe, a conscience que ce travail-là, de prise en charge des besoins vitaux, est effectué en vaste majorité par des femmes ou délégué à d'autres minorités quand le marché du travail, et donc le capitalisme encore lui, l'exige. C'est donc la pensée très critique d'une philosophe atypique que nous allons découvrir dans ce dernier épisode de notre série consacrée aux pensées féministes du travail, en compagnie de notre invitée du jour, Marie Garraud. Bonjour.
Bonjour Aliette Ovine.
Vous êtes maîtresse de conférences en philosophie sociale et politique à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et membre de l'Institut des sciences juridiques et philosophiques de la Sorbonne. On vous doit un ouvrage intitulé « Politique au pluriel de la vulnérabilité » paru chez CNRS Éditions. C'était en 2018 et je vous propose d'écouter tout de suite la voix de Nancy Fraser.
Well, let me start by mentioning the obvious. The concept of labor.
Le concept de travail est au centre de mon projet. Vous pourriez penser qu'en me concentrant sur cette notion, j'ai l'intention de retourner à un modèle familier, dépassé de la théorie critique. Si vous pensez cela, vous auriez tort. Mon but est de développer un nouveau paradigme capable de clarifier les problèmes les plus urgents, à la fois pratiques et théoriques, auxquels nous sommes confrontés au XXIe siècle. Je vais assurément beaucoup parler de travail et de capitalisme, mais pas au sens où votre grand-père l'entendait. Au contraire, mon but est de transformer notre compréhension de ces deux concepts et, à travers eux, repenser le fameux trio du genre, de la race et de la classe.
Gender, race and class.
On vient donc d'entendre la voix de Nancy Fraser. C'était en juin 2022. Elle entamait alors une série de trois conférences intitulées « Les trois phases du travail capitaliste », dévoiler les liens cachés entre genre, race et classe. La traduction est de moi, parce que sinon c'est en anglais, donc je ne veux pas m'aventurer là-dedans. Alors entrons dans le vif du sujet. Marie Garraud, en quoi la vision du travail de Fraser n'est-elle justement pas celle de notre grand-père? Qu'est-ce qui fait l'originalité de sa vision du travail?
Alors, je dirais qu'en termes de conception du travail, elle a une conception relativement classique. Le travail, c'est l'ensemble des activités par le biais desquelles les êtres humains répondent à leurs besoins et reproduisent l'existence. Donc, de ce point de vue-là, on est dans les clous. Non, par contre, effectivement, ce qu'elle cherche, je pense, à souligner dans cet extrait-là, c'est le fait que pendant très longtemps, on a limité le concept de travail, en tout cas dans la théorie critique moderne et contemporaine, depuis Marx, on s'est concentré sur le travail salarié, le travail exploité. Or, cela a conduit la théorie critique et les mouvements de gauche à se concentrer sur un conflit évidemment structurant des sociétés capitalistes qui est le conflit de classe. Mais ce, au détriment d'une certaine manière, d'autres lieux de lutte qui se sont développés plus tardivement au XXe siècle, notamment la lutte féministe et les luttes antiracistes, mais qui sont aussi pour Fraser des luttes centrée sur le travail. Et c'est en ce sens-là qu'elle est originale.
Et c'est pour ça qu'il y a donc ce fameux travail exploité, donc on va dire cette forme de travail peut-être plus classique qu'on connaît un peu davantage, notamment grâce à Marx. Et du reste, elle le dit d'ailleurs dans cette conférence, elle le dit, c'est pas parce que je vais beaucoup parler de travail que je vais m'en remettre uniquement à Marx ou que je vais uniquement me concentrer sur la notion de classe. Les deux autres concepts sont très importants pour moi. Et c'est en fait, ça correspond aussi à deux autres formes de travail. Il y a donc ce fameux travail domestiqué et puis le travail exproprié. Ce sont deux autres notions qu'elle développe. Qu'est-ce que ce travail peut être exproprié dont on... Parce que la notion d'expropriation aussi est très importante chez Fraser, on la connaît peut-être un peu moins. De quoi s'agit-il là, Marie Garraud?
Oui, alors en effet, donc elle va construire en fait une triade pour montrer que le travail ne se limite pas au travail exploité tel que l'a pensé Marx, même s'il constitue un point central de son analyse. Et donc elle reprend le geste de Marx qui disait qu'il allait derrière la sphère des échanges, dans l'entre-secret de la production, découvrir donc le secret de l'accumulation capitaliste, à savoir l'exploitation. Et elle fait un geste analogue, mais en allant plus loin que Marx, selon elle, en montrant que en fait derrière ou à côté de l'entre-secret de la production, il y a deux autres entre-secrètes, d'une part l'expropriation et d'autre part le foyer. Donc à quoi correspondent deux types de travail qu'il s'agit maintenant de penser pour dépasser l'antinomie entre politique de classe et politique minoritaire. Et donc ce travail, ces deux autres types de travail, ce sont d'une part ce qu'elle appelle le travail domestiqué. Dans ces conférences-là, ou dans le capitalisme est un cannibalisme, le travail de reproduction sociale, et je pense qu'on y reviendra, mais également le travail exproprié, qui correspond en fait à une forme de travail servile, obtenu sous la contrainte, non rémunéré, et qui est très souvent un travail racialisé. Et historiquement, c'est d'abord un travail qui a été effectué dans les colonies, puis dans le cadre évidemment de l'esclavage de plantations aux États-Unis. Et c'est un travail qui correspond à une distinction statutaire entre, donc si le travail, je dirais, exploité est fait par des travailleurs libres, entre guillemets.
Oui, dans le sens où le marché du travail permet d'y entrer et d'en sortir.
Voilà, exactement, et dans le sens où ils sont reconnus comme des êtres libres selon la loi, libres de vendre leur force de travail. En revanche, le travail exproprié est fait par des sujets dépendants, asservis, qui ne bénéficient ni de la citoyenneté juridique, ni de la citoyenneté sociale. Et donc, l'idée de Fraser, c'est que en réalité, le travail exploité sur lequel la théorie marxiste s'est concentrée a toujours eu comme condition de possibilité ces deux autres formes de travail qui ont été mises au jour et critiquées par les traditions antiracistes et féministes, que sont le travail exproprié et le travail domestiqué.
Maintenant qu'on cerne un peu mieux cette vaste notion de travail qui finalement a donc trois faces chez Nancy Fraser, et avec toute cette réflexion autour de ce travail invisible et pourtant nécessaire, mais qui est donc sapé par le capitalisme. C'est une notion qui est très présente dans son dernier ouvrage. C'est le fameux « Capitalisme est un cannibalisme » qui est sorti aux États-Unis en 2022, puis deux ans plus tard dans la traduction française, et dont le sous-titre est « Comment notre système dévore la démocratie, les liens sociaux et la planète ». C'est important, Marie Garraud, de dire là qu'il s'agit d'un de ses tout derniers ouvrages, finalement assez récent, si on le place sur l'ensemble de la carrière de Nancy Fraser, au tout début de son parcours. Et c'est important de revenir dessus aussi pour comprendre pourquoi Nancy Fraser s'intéresse au travail. Au tout début de son parcours, Nancy Fraser, c'est pas tellement ça qui l'intéresse, on va dire. C'est pas tellement ces questions-là. Elle a une autre construction philosophique, on va dire.
Bah, disons que c'est un point qui a été bien souligné par Estelle Ferraes, par exemple. Si on veut saisir la continuité du travail de Fraser, je pense que l'un des points centraux, et c'est ce que dit Estelle Ferraes, hein, c'est qu'il faut voir la place qu'ont eu dans sa réflexion les luttes sociales dont elle a toujours été contemporaine. Et donc sa réflexion, qui d'un point de vue théorique s'inscrit dans le cadre de la théorie critique, hein, donc une forme de réflexion qui vise à diagnostiquer les contradictions du présent pour en faire sortir des possibilités normatives non réalisées, et donc à partir de là chercher à penser la justice sociale et l'émancipation. Donc elle s'inscrit théoriquement dans cette tradition-là, mais c'est une tradition qui, je dirais, commande à celui ou celle qui s'inscrit en son sein une attention toute particulière aux luttes sociales qui se déroulent à son époque. Et c'est vrai que quand Fraser commence à écrire dans les années 80, elle vient, alors elle a fait une thèse de philosophie, mais elle a aussi passé beaucoup de temps avant sa thèse à militer dans des syndicats pour les droits civiques, dans des mouvements féministes, donc toutes les luttes des années 70 qui ont irrigué ce qu'on va appeler la New Left, la nouvelle gauche états-unienne, dont elle se revendique pleinement. Donc effectivement, la question du travail quand elle commence à écrire dans les années 80 n'est pas forcément centrale. Ce qui va la préoccuper plutôt, ce sont les notions d'espace public et de justice sociale. Donc elle est notamment inconnue pour avoir écrit un article très important qui revient sur le concept habermasien d'espace public, et puis également pour avoir élaboré une théorie de la justice sociale dans un contexte là aussi qui est marqué à la fois par la montée en puissance dans l'espace public des luttes féministes, antiracistes, parallèlement et peut-être un peu à la place d'eux, selon elle, les luttes de classe.
Mais c'est intéressant, Marie Garraud, cette idée que Nancy Fraser, finalement, tout au long de son parcours, pense à la fois les inégalités culturelles, symboliques, mais aussi les inégalités et les injustices socio-économiques. Est-ce qu'on peut dire d'elle que c'est finalement une philosophe qui a une pensée très concrète du monde, qui a presque une pensée de l'action, ou en tout cas qu'elle cherche vraiment à inscrire sa pensée dans le monde réel, entre guillemets?
Oui, alors ça, je pense qu'on peut le dire effectivement de plusieurs points de vue. Donc déjà parce que elle a à cœur de théoriser, encore une fois, les injustes, enfin j'allais dire les contradictions, mais c'est-à-dire en réalité les injustices qui structurent et qui caractérisent l'époque dans laquelle elle vit, et parce qu'elle conçoit l'activité philosophique comme une activité d'un certain point de vue engagée, c'est-à-dire qui œuvre aussi d'un point de vue conceptuel et normatif à l'émancipation. Donc c'est une philosophie qui se déploie en dialogue avec les luttes sociales et qui cherche aussi à offrir aux activistes, aux militants, aux militantes, des orientations pour l'action.
Alors que va-t-il se passer, puisqu'on l'a dit, Marie Garraud, ce n'est pas forcément la question primordiale qui perce dans les années 80 chez Nancy Fraser. Que va-t-il se passer pour que dans les années, on va dire milieu des années 2000, et puis de façon de plus en plus concrète jusqu'à aboutir à cet ouvrage que je mentionnais en 2022, que va-t-il se passer pour qu'elle se saisisse vraiment de cette question du travail, et puis surtout du travail des femmes en féministe, parce qu'elle est aussi féministe, quel va être le point de rupture ou peut-être de bascule pour qu'elle se dise « ça c'est un sujet dont je dois me saisir ».
Alors, effectivement, donc pendant les années 90, hein, Fraser et 2000, elle est surtout occupée à la construction d'une théorie plurielle de la justice qui cherche à articuler la question de la redistribution, celle de la reconnaissance et celle de la représentation. Et en fait, la question du travail, je dirais qu'elle va devenir centrale, comme vous le dites, hein, à la fin des années 2000, dans le cadre d'une réflexion que va initier à ce moment-là Fraser autour de la question du capitalisme. Et je pense que il faudrait sans doute lui demander, mais je pense quand même que deux choses vont jouer un rôle majeur dans cette évolution de sa pensée. D'abord, bien évidemment, la crise financière de 2008. Et puis les luttes très concrètes qu'elle va précipiter. Donc on vient de le dire, hein, Fraser, c'est une théoricienne qui a toujours eu une attention toute particulière aux luttes sociales de l'époque dans laquelle elle s'inscrit. Et effectivement, à partir de la fin des années 2000, début des années 2010, on va voir éclore de nouvelles luttes au centre desquelles la question de la vie vivable et des conditions de la vie vivable devient centrale. Donc ça, je pense que ça va évidemment être important dans sa réflexion. Et puis il y a aussi une réflexion, je dirais, de plus long terme. Alors, un aspect qu'on n'a pas mentionné de la pensée de Fraser, c'est que c'est quelqu'un qui évidemment a les yeux rivés sur le présent, mais cherche à historiciser la condition présente, à la remettre en perspective historique. Et elle le fait notamment avec le mouvement féministe. Donc elle a toujours été elle-même féministe, elle a toujours écrit en ayant à cœur les questions de genre et de justice de genre. Mais à la fin des années 2000, elle revient en fait sur la trajectoire qui a été celle des mouvements féministes de la deuxième vague, donc des années 70, pour montrer en fait qu'il y a eu un mouvement assez étrange qui s'est opéré, un mouvement de récupération finalement d'un certain nombre de revendications féministes qui ont été récupérées par le néolibéralisme, qui sont rentrées en convergence, hein, avec l'esprit néolibéral, qui est un esprit individualiste, d'une certaine manière anti-hiérarchique et anti-traditionnel. Et finalement, c'est aussi cette préoccupation pour le devenir des revendications féministes qui va la conduire, je pense, à renouer avec la question du travail, du capitalisme, du travail domestique, pour souligner que les théoriciennes féministes doivent absolument se ressaisir de la question du travail.
Et effectivement, c'est assez frappant. J'ai découvert en préparant cette émission un article que Nancy Fraser avait rédigé. C'était en 2005 dans Die Tage Zeitung, donc un journal en allemand. Et là, l'article s'intitulait, enfin, qui était plutôt une tribune, en fait, et qui s'intitule Frauen denkt ökonomisch. Donc, on pourrait traduire par femme pensée en termes économiques, point d'exclamation. Donc, c'est une injonction. Et effectivement, elle revient sur toute cette histoire des différentes vagues du féminisme, et elle est vraiment pas tendre, on va dire, avec certains mouvements et avec cette idée que certaines féministes ont finalement oublié de penser l'importance aussi des inégalités économiques, des inégalités très, très matérielles. Pour qu'on arrive à bien la positionner finalement dans son féminisme, est-ce que Nancy Fraser se rapprocherait d'une forme de féminisme matérialiste à la Christine Delphi, ou est-ce que c'est justement quelque chose dont elle veut se détacher parce que c'est déjà rentré dans le jeu du capitalisme quelque part?
Alors, c'est une question compliquée parce que ça mobilise potentiellement beaucoup de distinctions. Mais non, je dirais que si on veut la situer, à mon avis, elle se définirait elle-même comme une féministe socialiste ou comme une féministe d'inspiration marxiste, comme beaucoup de féministes en fait des années 70. Mais après, c'est vrai que dans cette galaxie de féministes qui souligne l'importance des conditions matérielles d'existence, des inégalités matérielles et économiques, il y a aussi des distinctions à faire. Les féministes matérialistes comme Christine Delphi ont la spécificité de poser l'existence d'un mode de production spécifique, un mode de production domestique qui définit le patriarcat et qui existerait parallèlement au mode de production capitaliste qu'a identifié Marx. Je pense que Fraser, elle se rapproche plus de ce qu'on appelle les féministes marxistes. Donc vous avez parlé notamment
c'est ce que j'allais vous demander, alors
la
c'est
semaine dernière,
creux,
voilà.
Négatif, mais tout ce qu'elle n'est pas, mais peut-on justement la rapprocher effectivement des Silvia Federici, Maria Rosa Dalla Costa? Est-ce que ça se rapproche de ce mouvement de Wages for Housework qui, elle aussi, et c'est exactement ce que dit Fraser dans son ouvrage, hein, qui veut penser avec Marx, mais au-delà?
Tout à fait. Alors effectivement, donc, penser avec Marx et contre Marx, encore une fois, je pense que ça a défini la situation de beaucoup de féministes de la deuxième vague et le renouveau qui s'opère du côté du féminisme marxiste matérialiste aujourd'hui aussi. Mais oui, si on devait la situer dans cette constellation, elle est évidemment plus proche, à mon avis, des théoriciennes de la reproduction sociale ou des féministes marxistes que des féministes matérialistes, parce que ce que soutient Fraser, hein, c'est que la hiérarchie de genre, la distinction de genre, elle est structurellement inscrite dans le fonctionnement du capitalisme. Bien sûr, elle existait auparavant, mais selon des modalités autres, et surtout, l'émergence du système capitaliste lui donne une intensité, une acuité nouvelle, si bien qu'on ne peut pas abolir le patriarcat sans abolir le capitalisme de son point de vue.
Alors justement, on a compris la notion de travail chez Nancy Fraser, sa vision aussi, ou en tout cas ses liens avec le féminisme. Il faut revenir sur cette notion de capitalisme qui est quand même assez spécifique chez elle. Et pour cela, je vous propose d'écouter un extrait de son fameux ouvrage « Le capitalisme est un cannibalisme » où elle entend définir le capitalisme, mais selon ses propres termes.
Capitalisme mérite pour le moins quelques clarifications sur le terme. Il sert habituellement à désigner un système économique fondé sur la propriété privée et les échanges marchands, le travail salarié et la production en vue de bénéfices. Mais cette définition trop étroite occulte la véritable nature du système au lieu de la révéler. Je soutiens ici que le mot « capitalisme » recouvre une réalité plus vaste. Un ordre sociétal qui permet à une économie fondée sur le profit de se repaître des composantes extra-économiques dont elle a besoin pour fonctionner, les richesses expropriées de la nature et des populations assujetties. Les multiples formes de travail de care, chroniquement sous-évaluées quand elles ne sont pas totalement niées. Les biens et pouvoirs publics, dont le capital réclame à grands cris la réduction et tente de l'obtenir par tous les moyens. Ou encore, l'énergie et la créativité des travailleurs. Bien qu'elles n'apparaissent pas dans les bilans des entreprises, ces formes de richesse sont des conditions préalables essentielles au profit et aux gains qui y figurent. Véritables piliers de l'accumulation, elles sont, elles aussi, des éléments constitutifs de l'ordre capitaliste.
Un extrait du « Capitalisme est un cannibalisme » de Nancy Fraser, dont nous explorons aujourd'hui la pensée, et plus précisément la pensée du travail, en compagnie de la maîtresse de conférences en philosophie sociale et politique à l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, Marie Garraud. C'est intéressant ce qu'on entend là dans cet extrait. Ce que dénonce Nancy Fraser, c'est finalement une forme de marchandisation du monde de façon globale, sous l'influence du capitalisme financier, entre autres. Et finalement, est-ce qu'on pourrait se dire, Marie Garraud, que le travail domestique n'est qu'une victime parmi d'autres de ce processus à la fois économique et social?
Alors, effectivement, alors le mouvement que Fraser essaie de critiquer, c'est ce qu'elle appelle le cannibalisme en réalité. Hein. C'est-à-dire, c'est cette tendance du capitalisme à dévorer ses propres conditions de possibilité. Et pour comprendre en fait cette formule, il faut effectivement revenir à ce qu'elle explique au tout début de cet extrait, qui est cette idée que le capitalisme n'est pas réductible à un système économique, donc système économique fondé sur la propriété privée des moyens de production, le travail salarié, la recherche du profit, etc. Mais que le capitalisme est un ordre social institutionnalisé, ou un ordre sociétal dans la traduction française, c'est-à-dire une forme sociale qui repose sur toute une série d'institutions qui sont interdépendantes, mais néanmoins distinctes. Et l'économie capitaliste est une de ces institutions, mais par ailleurs, cette économie-là, elle dépend d'autres sphères qui sont des sphères non marchandes, hein, en réalité. Donc, par exemple, la sphère dans laquelle se déroule le travail reproductif, qui n'est pas réductible à la famille, mais qui comprend aussi bien les services publics, les formes de vie communautaire, etc., les activités associatives, les institutions politiques également, et puis la nature. Or, ce que souligne Fraser, C'est moins, à mon avis, un processus de marchandisation de ces zones-là qu'un processus de cannibalisation, d'épuisement des ressources que ces zones produisent. Alors, bien sûr...
Et ça, Marie Garraud, oui. Pardonnez-moi de vous interrompre, mais parce qu'on arrive un peu à l'acmé peut-être aussi de cette pensée-là, parce que finalement, un système qui s'auto-dévore, qui se cannibalise, ça mène aussi à une forme de paradoxe. C'est un paradoxe qu'elle a identifié, c'est ce paradoxe socio-reproductif du capitalisme. De quoi est-il question ?
Oui, alors effectivement, donc elle dit que le capitalisme repose sur quatre conditions d'arrière-plan. Donc le travail reproductif, les institutions politiques, la nature et le travail exproprié. Et que, en réalité, c'est entre la production et ces différentes conditions d'arrière-plan de la production économique capitaliste, il existe des contradictions possibles. Et donc, une sorte de tendance, hein, finalement, latente et qui s'actualise tout particulièrement dans certains moments historiques donnés à la crise. Et donc, parmi ces contradictions ou paradoxes, elle identifie ce qu'elle appelle le paradoxe socio-reproductif, qui est le paradoxe suivant. D'un côté, la production capitaliste repose sur le travail reproductif. Le travail reproductif ou le travail de care, comme vous le disiez tout à l'heure, ce sont l'ensemble des activités par le biais desquelles on produit des sujets, un monde commun, des relations, des habitudes, des significations partagées. Donc c'est en réalité énormément de choses, donc des activités de socialisation et de subjectivation. Et si on reprend la conceptualité des théoriciennes de la reproduction sociale dont s'inspire ici Fraser, c'est un travail qui sert dans le système capitaliste à reproduire la force de travail qui est la plus précieuse des marchandises. Or, donc le capitalisme a besoin de ce travail. Mais en même temps, le capitalisme, à certains moments, parce qu'il est dans cette recherche constante d'accumulation du capital, va prendre ou piocher dans cette réserve de richesse pour accumuler davantage de capital. Ça va se marquer, par exemple, par l'enrôlement des femmes dans la force de travail productif ou dans la suppression des allocations de services publics dédiées à la reproduction sociale.
C'est ça, Marie Garraud, c'est très important, parce qu'on a dit que Nancy Fraser était une philosophe très concrète, très ancrée aussi dans le monde réel. En fait, c'est là aussi qu'on voit un lien très fort. Ce qu'elle observe, c'est aussi un manque de moyens, de ressources financières pour tous les secteurs du soin, tout ce qui concerne l'aide à la personne. Et ça va inspirer aussi sa théorie. Elle parle même de crise du care. Est-ce que c'est vraiment la même chose? Est-ce que finalement cette crise du care, oui, c'est la crise du soin telle qu'on peut l'avoir dans les hôpitaux, dans l'aide à la personne?
Alors, d'un point de vue très concret, oui. Bon. Absolument. Donc là, en fait, la crise du care, c'est pas du tout une expression de Fraser en tant que telle. Hein, c'est une expression qui circule beaucoup dans le monde anglo-américain et qui a plutôt été proposée au départ par ce qu'on appelle les théoriciennes du care,
c'est ça,
donc du soin, qui se différencient, je dirais, de Fraser par le fait qu'elles ne situent pas nécessairement leur réflexion dans le cadre d'une critique du capitalisme. Le propre, vraiment, de Fraser, c'est de renouer avec cette question de la crise du care en situant cette crise, non pas simplement dans une forme sociale patriarcale qui aurait tendance à dévaluer systématiquement les activités féminisées, mais dans une forme sociale capitaliste qui invisibilise, pour ne pas le rémunérer, le travail reproductif. Et donc cette crise, elle est structurelle dans le capitalisme pour Fraser, mais elle prend à certains moments historiques des formes d'intensité toutes particulières, et c'est le cas dans le capitalisme financiarisé dans lequel nous sommes en ce moment, qui se caractérise encore une fois par le fait qu'il enrôle celles qui étaient classiquement les agentes de ce travail reproductif, les femmes dans la force de travail, parce que les salaires sont extrêmement bas, parce qu'il faut maintenant pour chaque famille deux revenus pour avoir de quoi vivre. Et dans le même temps, il supprime les financements qui avaient été mis en place dans le cadre du capitalisme fordiste en soutien à la reproduction sociale. Donc il définance les hôpitaux, il définance l'éducation, la prise en charge de la vieillesse, la prise en charge de l'enfance, etc. Donc ça, c'est effectivement ce qu'on constate et qu'elle appelle cette crise du care. Oui.
Et du reste, le mot care figure dans le titre anglais de son ouvrage « Le capitalisme est un cannibalisme » et ne figure pas dans la traduction française. Donc, ce n'est pas vraiment le concept de care non plus. Enfin, ce n'est pas exactement la même traduction. Il faut faire attention aussi pour ne pas faire rentrer Nancy Fraser dans le groupe des théoriciennes du care que vous connaissez très bien, Marie Garraud, pour l'avoir bien étudié.
Oui,
Par ailleurs, Marie Garraud, dernière question aussi, parce que c'est une chose que de critiquer l'intégralité du système, mais encore une fois, on a compris que Nancy Fraser voulait avoir une influence normative aussi. Qu'est-ce qu'elle propose très concrètement? Qu'est-ce qu'elle met sur la table pour améliorer la situation, ou en tout cas pour la rendre moins pénible? Et là encore, le mot pénible a une signification particulière.
Oui, alors bon, elle propose des choses à plusieurs points de vue. D'abord, d'un point de vue stratégique, l'intérêt qu'il y a à penser le travail reproductif comme un travail, c'est notamment de montrer que toutes celles qui l'effectuent font partie en réalité de la classe ouvrière. Donc c'est aussi une manière de montrer que il doit y avoir ce qu'on appelle une convergence des luttes en français entre toutes celles et ceux que le capitalisme abîme, qui ne sont pas simplement les salariés exploités dans les entreprises, mais aussi toutes celles qui sont responsables du travail reproductif, et puis par ailleurs celles et ceux qui sont chargés du travail exproprié, etc. Donc c'est aussi une manière pour elle de montrer qu'il y a une base pour des alliances politiques possible. Et puis d'autre part, c'est quelqu'un aussi qui a, depuis le début de sa carrière, insisté sur l'importance de démocratiser l'ensemble de la société. Et donc il y a cette idée que nous devons collectivement reprendre le contrôle de l'organisation de la production et de la reproduction.
Il faut alors imaginer un monde social dans lequel la vie des citoyens intègre le fait de gagner un salaire, la pratique du care, l'engagement communautaire, la participation politique, l'engagement dans la vie associative de la société civile, tout en laissant un peu de temps pour s'amuser. Voilà le programme de Nancy Fraser tel qu'elle le résume elle-même. Merci beaucoup Marie Garraud. Je rappelle que vous êtes maîtresse de conférences en philosophie sociale et politique à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et je rappelle également le titre de votre ouvrage « Politique de la vulnérabilité » paru aux éditions du CNRS en 2018. Et tout de suite, on retrouve l'économiste et professeur à l'INSEAD Business School et membre du Cercle des économistes, Alexandra Roulet, qui tire comme tous les lundis son fil de l'écho.
Le fil écho.
Régulièrement, il est question d'une nouvelle réforme de l'assurance chômage. Alors, comment savoir si le système est trop généreux ou pas assez? En réalité, l'assurance chômage doit trouver un juste équilibre. L'assurance chômage existe pour procurer un revenu de remplacement aux personnes qui perdent leur emploi. En effet, si Léo est licencié ou si son contrat se termine, il est obligé de continuer à payer son loyer. Or, il n'a plus de salaire et il n'a pas forcément l'épargne dans laquelle puiser. L'assurance chômage lui permet donc de continuer à honorer ses dépenses contraintes. L'assurance chômage a en théorie une autre vertu, celle de laisser à Léo le temps de retrouver un emploi qui lui soit adapté. Dans les faits, cet argument ne se vérifie pas complètement, parce que même s'il est évident qu'on ne peut pas retrouver instantanément un emploi, les études ont montré qu'avoir des durées d'indemnisation plus longues n'était pas particulièrement associé au fait de trouver des emplois de meilleure qualité. Le principal bénéfice de l'assurance chômage est donc plutôt sa fonction d'assurance du revenu. Mais lorsqu'on réfléchit à la bonne générosité de l'assurance chômage, il faut aussi prendre en compte son coût et ses potentiels effets désincitatifs au retour à l'emploi. En effet, il y a des dizaines d'études en France et à l'étranger qui documentent que la durée de chômage de Léo sera d'autant plus longue que l'assurance chômage dont il bénéficie est généreuse. En fait, la probabilité de retrouver un emploi est maximale à deux moments. D'abord, tout de suite après la perte d'emploi. Il y a en effet une partie des personnes qui tombent au chômage et qui retrouvent un nouveau contrat très rapidement, dans le mois qui suit par exemple. Et ensuite, juste avant l'expiration des indemnités chômage. Probablement parce qu'à l'approche de cette perspective, on intensifie sa recherche. Ce qu'on voit, c'est que si Léo est éligible à un an d'assurance chômage, il y a de fortes chances qu'il retrouve un emploi, soit tout de suite donc, soit au bout d'environ 11 mois. Mais si Sarah est éligible, elle, à 2 ans d'assurance chômage, pour elle, la probabilité de trouver un emploi au bout de 11 mois ne sera pas différente des autres mois. Et en revanche, elle augmentera vers 23 mois, juste avant l'échéance des 2 ans. On appelle ce phénomène « aléa moral ». Cela signifie que potentiellement, Léo ou Sarah modifient leur comportement de recherche d'emploi en fonction de l'indemnisation. Mais attention, ce n'est pas le cas pour tous les chômeurs. Cela est seulement vrai en moyenne. Au final, trouver le bon équilibre pour l'assurance chômage nécessite de mettre en regard ses bénéfices et ses coûts. Une réforme qui vise à baisser la générosité du système n'est souhaitable que si l'on estime qu'elle va permettre de réduire les durées de chômage de façon importante sans créer trop de vulnérabilité. On peut d'ailleurs avoir des appréciations différentes selon qu'on accorde plus d'importance à la lutte contre la pauvreté ou à la réduction du chômage. Mais au-delà de ces préférences politiques, il y a tout de même des certitudes et des faits documentés par les études. Ainsi, on ne peut pas dire que le chômage n'a rien à voir avec les conditions d'indemnisation. La durée de chômage réagit aux paramètres du système, comme on l'a évoqué. Et à l'inverse, on ne peut pas dire non plus que réduire la générosité de l'assurance chômage réglerait le problème du chômage en France, car celui-ci dépend de nombreux autres facteurs.
Merci beaucoup Alexandra. Le Fil Écho, c'est un podcast à retrouver sur l'application Radio France, comme tous les autres fils. Vous savez, il en existe beaucoup, le fil histoire, science, philo, pop culture. Et pour retrouver cette émission et toutes les précédentes, c'est sur la page d'Entendez-vous l'écho que ça se passe. Et moi, je vous dis à lundi prochain, 14h.